Bonsoir Henri.
Bonsoir Winnie.
Comment vas-tu?
Bah ça va, la santé s'améliore, c'est pas encore tout à fait ça, mais j'espère que pour fin de semaine...
Bah pour que fin de semaine, ça sera un peu mieux.
Ouais, pour fin de semaine, ça sera indispensable.
Exactement.
Pour passer un week-end où je vais pas très bien dormir.
Quoi. Non.
Voilà. Mais par contre, j'ai une émission lundi prochain, j'ai quelqu'un à l'inviter, hein. Pour vous dire, c'est un ancien joueur de RC Club de Lens. C'est ma génération.
Ok.
Michel Joly. Qui viendra des années 70-80. Hein, voilà, pour ceux qui vont reconnaître l'ancien joueur de RC Club de Lens. Alors aujourd'hui, pas de générique de sport.
Émission
donc c'est
spéciale.
Émission spéciale sur l'apiculture.
Okay.
Et figurez-vous qu'avant de venir ici dans les studios, on en a parlé justement avec des cousins qui sont dans l'apiculture. Et aujourd'hui, je reçois M. Daniel Cania, le président de l'association Abeilles d'Etiri.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Cagnon. Alors, moi, je regarde, j'y beaucoup, et c'est par rapport à un sujet que j'ai lu. Je dis, tiens, ça serait très intéressant de parler de l'abeille d'Etiri. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui. Alors, vous êtes dans l'apiculture depuis une bonne vingtaine d'années, monsieur Cagnon, c'est
oui,
ça?
C'est cela. Alors déjà, je vous remercie de m'accueillir dans vos locaux, c'est très gentil. Alors oui, effectivement, personnellement, je suis depuis plus de 20 ans dans l'apiculture.
D'accord. Alors, comment devient-on apiculteur, en fait?
Oh là, comment on devient? Alors, on commence par une passion. Il faut une passion. Une passion passionnée de la nature, aimer observer la nature, regarder la nature, cultiver. J'ai touché avec mon grand-père le jardinage, la culture. Et tout doucement, lorsque j'ai vu un article dans la presse parlant d'apiculture, eh bien, j'ai voulu m'initier tout seul à l'apiculture. Et j'ai commencé, tout doucement, mais sereinement.
Voilà, c'est-à-dire, d'année en année, on a de plus en plus de ruches. Donc, c'est vrai, hein, on démarque avec une ruche, et puis, suivant, on agrandit, ça va, production de miel par rapport au nombre de ruches.
Bien sûr, il y a le nombre de ruches qui est important, mais il y a aussi la connaissance de l'abeille, son cycle de vie, toutes ces choses-là qui sont très très importantes. Bien la connaître, bien la comprendre, parce que l'apiculture, ce n'est pas avoir une ruche dans le fond du jardin et une fois par an récolter du miel.
Ah non, mais sûr que non.
Heureusement.
Voilà, c'est heureusement. Une science de la nature, une science de l'abeille par elle-même. Quoi. Voilà.
Tout à fait. Connaissance de cet insecte qui est dans la classe des pollinisateurs, donc l'importance des pollinisateurs. Et le fruit qu'il nous apporte par le miel qu'on récolte.
Alors, vous avez créé l'abeille d'Etiri. D'Etiri, ça a une signification. Alors, comment s'est créée cette association?
Alors, pour tout vous dire, je résidais auparavant sur Avion. J'avais mes ruches, personnellement, dans mon jardin, 6 ruches que je produisais, enfin, que j'exploitais. Et j'étais affilié à un syndicat apicole sur Arras. Et pour des raisons personnelles, avec mon épouse, nous avons déménagé. Nous sommes partis sur Libercourt. Et là, arrivé sur Libercourt, eh bien, comme beaucoup de gens, j'ai cherché à me renseigner, à trouver une association apicole pour m'affilier. Et puis en recherchant sur la CAC, Communauté d'Aglo des Nains Carvins, il n'y avait rien. J'ai regardé sur la CAL, jusque Lens-Liévin, et il n'y avait rien. Donc avec 3 amis, on s'est dit, c'est tout, il n'y a rien, il faut créer quelque chose. Et on va donc créer Abeilles d'Etiri. Et on a créé cette association. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on s'est dit, transmettons notre savoir et notre expérience en créant un rucher école. Et après cela, créer des ruchers communautaires. Et ensuite, l'importance de la transmission vis-à-vis des nouvelles générations, eh bien, c'est d'organiser des ateliers pédagogiques. Voilà donc comment est venue cette idée, vu qu'il n'y avait rien, créons cette association.
Alors, c'est une association qui est quand même assez récente, une bonne année d'existence.
Le 12 septembre 2018, qu'elle a été créée, oui, exactement.
Alors, d'Etiri, c'est quand même une signification. Est-ce que vous êtes, les ruches sont sur Etiri?
Alors, tout à fait. Pour le rucher école, oui. Si vous voulez, après avoir créé l'envie de créer cette association, la première réaction que j'ai eue, c'est de rencontrer M. le maire de Libercourt, qui a très bien accueilli mon projet, qui nous a aidés pour avoir un terrain, le Terry 115 à Libercourt. Donc on a appelé cette association Abeille des Terrys, parce qu'elle est sur le Terry 115.
Donc c'est un peu de la biodiversité.
Tout à fait, en accord avec, bien sûr, c'est une convention qui a été signée avec, avec Eden 62. Donc, bien sûr, au niveau biodiversité, au niveau attention, le maintien de tous les pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que l'abeille, il y a des papillons, il y a des mouches, il y a d'autres insectes. Donc, retrouver un certain équilibre.
Alors, disons que c'était difficile de créer une association. Vous étiez trop au départ. Maintenant, vous êtes une soixantaine de membres.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, difficile, ben, vous savez, tout est difficile, hein, ou alors tout est simple, hein, je dirais. Quand on a déjà la volonté, on trouve, on se renseigne pour écrire des statuts, pour écrire des choses comme ça. Et après, au-delà des 3 bénévoles et 4 avec moi-même, c'est une volonté de faire quelque chose. Et progressivement, nous avons, faut dire que le rucher école, nous accueillons 18 élèves par an. 18 élèves que nous formons, que nous initions à l'apiculture. Sur 15 samedis après-midi, de janvier à novembre à peu près, on les initie à l'apiculture. En commençant bien sûr par de la théorie, pour apprendre la morphologie de cet insecte, comment il vit dans la ruche. Après, apprendre à reconnaître à l'intérieur de la ruche, à analyser des couvains, voir les œufs, voir la reine, le mâle, comment ça fonctionne, pour après récolter le miel. Et après, chose qui est très importante aussi, on leur apprend ce qu'on appelle la santé de l'abeille. Vous voyez, vaste programme quand même. Hein. 15 samedis après-midi, les élèves sortent et ils ont leur ruche et ils font leur première récolte et ils sont heureux.
Alors, vous parlez d'élèves, alors vous les prenez à quel âge ?
Oh ben, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, on pensait se dire, tous les adultes qui veulent venir. Et puis, cette année, nous avons la grande surprise, un jeune de 13 ans, oui, je dis bien, 13 ans, qui s'est inscrit et qui va commencer les cours ici en janvier. Donc, nous sommes enchantés, bien sûr, avec l'autorisation et l'accord de ses parents, hein, parce qu'il est mineur, mais nous sommes heureux et enchantés de dire, la jeunesse, elle est là, la relève est là.
Donc vous avez parlé de ruchers école, maintenant parlons un peu des ruchers communautaires et puis des ateliers pédagogiques par rapport, à ce rucher école.
Oui, alors comme on l'a dit, comme je vous l'ai expliqué, nous avons d'abord notre rucher école où on apprend, on est initié à l'apiculture. Au-delà de ça, les apiculteurs, généralement, où ils ont un terrain, où ils connaissent pour pouvoir entreposer des ruches, ils connaissent un agriculteur, plusieurs solutions s'offrent à eux. Mais parfois, et malheureusement de plus en plus, les gens sont embêtés pour trouver un terrain pour poser leur ruche. Parce qu'il y a une réglementation, bien sûr, qu'il faut respecter. Mais il y a quand même encore cette phobie de l'insecte. Si les voisins ont peur parce qu'il y a une ruche, il aura des problèmes et il va devoir enlever sa ruche. Après, l'argument que je développais, c'est de dire, mais ceux qui vivent en appartement, ils n'ont pas le droit d'être apiculteurs. Donc l'idée, c'était quoi ? C'était de défendre vis-à-vis des élus, de défendre cette idée-là, de dire, mais aidez-nous à trouver un terrain que vous allez nous clôturer et dans lequel les membres de l'association pourront mettre leur ruche. Un peu sur le principe des jardins ouvriers, où les ouvriers se réunissent. Là, c'est les apiculteurs qui, entre eux, vont se réunir, vont échanger, communiquer, des petites astuces, des choses comme ça.
On peut trouver des ruches sur des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, indirectement.
Mais bien sûr. Encore faut-il avoir l'autorisation.
Voilà, exactement. On en trouve, je pense.
Ah oui, on en trouve. Il y a même... parce que là, j'ai été agréablement surpris, parce que dans le cadre de ce développement de ruchers communautaires, j'ai donc contacté quasiment tous les élus de la CAC, communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin. Alors, ils sont nombreux à avoir répondu très positivement à ma demande. Je vais parler, le premier qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est le président de la CAC, M. Pilch, qui nous a offert un terrain pour mettre nos ruches à la ferme pédagogique. Derrière ça, au Terry à Wany, on a également eu des ruches en convention signée avec Eden 62. La mairie d'Hénin-Beaumont nous a donné un terrain. Et là, on a d'autres projets avec d'autres communes. justement pour pouvoir implanter. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est que certaines communes de notre secteur ont déjà des ruches. Et quand on discute avec les élus, ils nous expliquent bien que ils ont du personnel qui est formé, qui a été formé par la commune pour entretenir et gérer ces ruches. Je trouve ça merveilleux.
Ah, bien sûr. Alors, donc, la pédagogie, donc, l'esprit alors, de pédagogie, alors, les ateliers pédagogiques, comment ça se passe?
Alors, les ateliers pédagogiques, bien sûr, notre objectif premier, c'est une transmission. Parce que l'apiculture, certes, on trouve énormément de revues, des reportages qui vous expliquent les choses. Par contre, on a du mal à réunir les informations pour rechercher le pourquoi de l'apiculture, le pourquoi des pollinisateurs, comment ça fonctionne dans la nature, pourquoi les abeilles pollinisent. Et on s'aperçoit, quand on discute avec des enfants, que font les abeilles? Elles me ramènent du miel. Non, elles ramènent du nectar, elles ramènent du pollen. Donc pour sensibiliser et faire comprendre aux enfants, là également avec les élus de la région et également les responsables des écoles, on organise dans les écoles, avec les enfants et les enseignants, des ateliers pédagogiques où là, les enfants, on leur explique comment fonctionne cet insecte, comment il vit, ce qu'il fait, comment il est organisé, l'importance, le nombre d'abeilles qu'il y a dans une ruche, comment ça marche, la durée de vie. Vous voyez, toutes des questions. Et les enfants, généralement, ils ont les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte. Et dès que je leur autorise à poser une question, j'ai 1000 questions qui
arrivent en
ah bah oui. Et tous les enfants, après les avoir, initiés à la connaissance de cet insecte, vous pouvez leur demander, ils vont vous expliquer que les abeilles pollinisent, vont chercher le nectar qu'elles ramènent dans la ruche pour faire du miel.
Ouais.
Alors, je trouve ça merveilleux.
Et donc, allez, ça pollinise énormément. Hein. Je veux dire, il faut compter qu'une abeille peut aller sur 1000 fleurs pour récolter un kilo de miel.
Oh, alors là, il y a peut-être une question de zéro. Hein.
C'est ce que j'ai senti lire. Peut-être que c'est à exagérer.
Tout dépend.
Qu'on arrive à 100 000 alors, à 1 million.
Voilà. On est à 1 million de fleurs à peu près qu'une abeille doit butiner.
Oui.
Pour pouvoir faire un kilo de miel.
C'est ça, hein, comme
ouais,
j'avais
un
dit.
Un million de fleurs,
oui, c'est ça. Ouais.
Et voir un million à 1,5 million de fleurs.
C'est énorme. C'est-à-dire, alors justement, c'est ce qu'on appelle les travailleuses.
Voilà.
Voilà. Oui. Alors, dans une ruche, il y a la reine, les mâles, Foubourdon, et les ouvrières.
Oui.
Alors, expliquez-nous un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, moi qui connais un peu, mais pour ceux qui ne connaissent pas.
Oui. Alors, comme vous l'avez dit, la reine, c'est la seule et unique qui pond. Elle vient au monde, elle est fécondée, généralement par 15 mâles pour avoir sa spermathèque, et puis jusqu'à la fin de sa vie, elle pond. Elle ne fait que pondre et elle pond. Alors attention, les chiffres sont... En pleine saison, ça peut aller de 1000 à 1500 œufs par jour. Une abeille, oui, pond 1000 à 1500 œufs par jour. C'est énorme. Bien sûr, en haute saison. En basse saison, comme là on commence, les seins réduit énormément et elle en arrive même une période où elle ne pond plus. Donc cette ponte, elle ne mange même pas, on la nourrit, les abeilles la nourrissent, et donc ces œufs qui sont pondus, et les abeilles mettent une toute petite goutte de gelée royale. Dès que l'œuf devient larve, au bout de quelques jours, elle dépose dans l'alvéole du miel et du pollen, et 21 jours après ça devient une abeille. Un mâle, c'est au bout de 24 jours. Il est beaucoup plus gros. À la naissance, l'abeille, elle a, je dirais, par instinct, elle a plusieurs métiers, plusieurs fonctions dans la ruche. Sa première fonction, à sa naissance, elle est nettoyeuse. Elle nettoie. Elle nettoie les alvéoles. Elle nettoie la reine. Elle épouille la reine. Après ces deux jours où elle a nettoyé, elle devient ventileuse. Juste avant, elle est nourrisseuse. Elle nourrit. C'est elle qui met dans les alvéoles, qui met du pollen, qui met du nectar, qui met du, de la gelée royale. Après ça, elle devient ventileuse. Parce que dans une ruche, et même quand on voit le nombre d'individus en pleine saison, le taux de CO2 est énorme avec l'humidité. Donc elles sont là, elles ne font que battre des ailes pour faire circuler l'air dans la ruche. Alors, en saison, en pleine saison, elles battent des ailes pour ventiler l'air dans la ruche. Et l'hiver, eh ben, sans battre des ailes, elles frottent les muscles de leurs ailes pour créer de la chaleur, comme quand on se frotte les mains. C'est ce que j'explique aux enfants. Frottez-vous les mains, ça fait de la chaleur. Les abeilles font la même chose dans la ruche. Après ça, elle a d'autres missions et elle arrive à son avant-dernière mission qui est de... Ben, je deviens gardienne. Je suis à l'entrée de la ruche et je protège tous les étrangers que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas de la ruche, qui n'ont pas les phéromones de la reine. On les refuse et on les repousse. Sauf une abeille qui vient avec des grosses provisions et qui dit « Je me suis trompé de maison, mais rentre, tu peux donner tes provisions ici. » Celle-là, elle est acceptée. Donc... voilà, et après, elle termine son cycle de vie en butinant. En butinant, tous les jours, où la météo le permet, bien sûr, et jusqu'à la mort, jusqu'à l'épuisement. Mmh. Et une abeille vit 45 jours en pleine saison. Mmh. 20 à 25 jours à l'intérieur de la ruche, et le reste à l'extérieur de la ruche.
Donc, ils ont des ruches à peu près, il faut compter... 45 à 50 000 abeilles, à peu près, pour une ruche. Non, plus que ça,
un
des
peu
fois.
Plus en pleine saison, vu le nombre de naissances, oui, on flirte avec les 60 à 80 000 abeilles, ouais. Quand même. Oui, oui.
En pleine saison.
Tout à fait, en
pleine
saison.
Après la fécondation de la reine, et ainsi de suite. Quoi. Voilà, la reproduction, on fait que... Voilà,
voilà, voilà. Voilà. Ouais, par contre, vous parlez de reproduction, souvent on me pose la question, mais comment se fait-il qu'une seule reine dans la ruche, et si elle meurt, comment ça se passe? Comment faire pour avoir d'autres reines? Alors bien sûr, il y a l'intervention des apiculteurs, qui eux, et j'en fais aussi, hein, fait de l'élevage de reines, hein, pour pouvoir changer sa reine, et pour pouvoir des plus fécondes, changer de variété de reine, des choses comme ça. Mais naturellement, dans la colonie, quand la reine commence à ralentir sa ponte, pour de multiples raisons, elle vieillit, elle fatigue, elle est... Voilà. Eh bien, la collectivité le ressent. Moins d'œufs, moins d'ouvrières, il y aura donc moins de nourriture qui vont entrer, donc notre colonie risque d'être en danger. Donc, par instinct, cette collectivité-là décide, les œufs qui ont été pondus de 3 jours, eh bien, au lieu de mettre de... une nourriture classique qui est le pollen et le pollen et le miel, eh bien, elles ne mettent que de la gelée royale. Et cette cellule-là va devenir une reine parce qu'elle a été nourrie que à la gelée royale. Et instinctivement, donc dans la ruche, elles vont faire 3, 4 ou 5 cellules, ou 6 peut-être, cellules. Alors déjà, quand on voit ça, l'apiculteur se dit « Tiens, ma ruche, où c'est une ruche essaimeuse ?» Ça existe, des ruches essaimeuses. Ou alors, tiens, la reine commence à vieillir. Elle doit donc pondre moins. Et bien, ce qui est étrange, hein, c'est qu'au bout des 16 jours, quand la reine vient au monde, eh bien, l'ancienne reine l'accepte. L'accepte. Et avant qu'elle ne vienne au monde, eh bien, elle s'en va. Elle quitte la ruche. Et il y a à peu près la moitié de la ruche des abeilles qui la suivent. D'où l'essaimage.
Ouais, c'est franchement c'est extraordinaire. Ouais,
et la nouvelle reine,
c'est ils ont un instinct extraordinaire.
Extraordinaire.
Ah ouais, et puis je veux dire c'est d'école à l'abeille quoi, directement.
Ben bien sûr, ben bien sûr.
Comme quoi ils sont peut-être plus je veux dire, ils ont une mémoire également énorme.
Alors, la mémoire, c'est une chose, hein, mais après, les apiculteurs, on se demande, et on se pose encore des questions, même après 20 ans, hein, de dire la mémoire, mais comment se fait-il qu'une abeille qui ne vit que 45 jours, comment elle a pu transmettre à la colonie sa mémoire? Non, il y a d'autres choses, je pense, qu'on n'arrive pas à toucher.
Ouais, à maîtriser. Ouais.
Alors, même chose, quand la reine vient au monde, la nouvelle reine, et que dans la ruche, il y a 3 ou 4 ou 5 ou 6 cellules, la reine, sa première mission, c'est de chercher s'il n'y a pas d'autres cellules royales dans la ruche pour aller tuer la reine. La reine a un dard qui ne sert qu'à tuer une concurrente.
Ben voilà, bien sûr.
Mais c'est extraordinaire.
C'est comme ça. Alors, moi, disons que ça me remonte peut-être à 45, plus de 50 ans même peut-être. Je veux dire, mon parrain, qui faisait, qui était apiculteur, il avait mis des ruches dans un champ, comme ça, pour sans rien, et puis les abeilles y sont venues.
Oui.
C'est incroyable. Faire une colonie qui arrive comme ça, c'est exceptionnel, cette affaire-là.
Oui. Alors, comment ça peut se produire, hein? Et les apiculteurs connaissent ça avec ce qu'on appelle les chasse-abeilles pour essayer de capter et d'attirer un essaim. Alors, on met parfois, hein, en pleine saison, hein, bien sûr, la saison de l'essaimage, c'est mai, début juin. Eh bien, par des endroits où je vois beaucoup de fleurs, donc il y a des butineuses qui viennent là, eh bien, je mets ce qu'on appelle une ruche piège, dans laquelle il y a beaucoup d'odeurs, c'est-à-dire qu'on a badigeonné à l'intérieur de la cire d'abeille, des traces de miel, des traces de propolis, pour que les abeilles ressentent, viennent par curiosité, viennent estimer le volume, pour que lorsqu'il y aura un essaimage, quelques abeilles qui ont été visiter cette ruche piège arrivent à convaincre toute la collectivité en disant « Venez, j'ai trouvé un endroit où on pourra se mettre. » Et c'est donc, comme ça qu'elles rentrent dans une ruche.
Une ruche vivante, sous-entendue, quoi. Sous-entendue, quoi. Qui n'est pas vivante, mais qui est censée pour attirer...
Voilà, qui voilà. Attire avec les odeurs. Voilà. Qui attire avec les odeurs.
Alors, pour la formation d'apiculteur, est-ce qu'il faut avoir des connaissances particulières pour être apiculteur? Au départ, non.
Non, pas du tout. Bon, bien sûr, il faut savoir lire et écrire. Hein. C'est pour ça que l'âge, la connaissance, pour dire d'aller sur Internet, rechercher des livres aussi, parce que la formation n'est que l'élément moteur, c'est le levier. Hein. C'est comme, après, c'est pour donner l'envie d'avoir envie de continuer, de poursuivre. Non, ce qu'il faut, c'est être avant tout passionné. Ce qu'il faut, c'est aimer le côté nature, parfois avoir de la patience, parce qu'il faut savoir attendre, et après, une très très grande rigueur. Parce que quand c'est la période de surveiller sa ruche pour enlever les cellules royales pour pas qu'elle essaime, quand on sait qu'il y a des cellules royales, au bout de autant de jours, il faut venir pour enlever, sinon il va y avoir essaimage. Quand c'est après la période de récolte de miel, eh bien, il faut aller traiter pour soigner les abeilles. Voyez, donc il y a une rigueur et un calendrier. Et quand on fait des reines, alors là, c'est au bout de 3 jours qu'on doit faire ça, que ce soit un samedi ou un dimanche ou un lundi. Il faut le faire. C'est le troisième jour, pas le quatrième. Vous voyez, donc c'est une certaine rigueur.
C'est une rigueur. Oui. Alors. Et comment fonctionnent donc les ruchers communautaires, hein? On en a parlé un peu, mais bon, c'est dans les communes.
Tout à fait, oui.
Donc il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas, et comme vous avez dit, il y en a qui ont déjà leur ruche.
Voilà, alors, qui n'acceptent pas, pour être très honnête avec vous, j'ai aucune commune qui a refusé, qui m'a dit non, je ne veux pas ça. Par contre, certaines communes nous disent, j'ai des difficultés de vous mettre à disposition un terrain communal. Parce que ce terrain communal est proche de maisons, est proche d'une école. Bon, ne créons pas de problème, parce que si SMH il y a, il peut être à 10 mètres et se retrouver dans une cour d'école. Donc il y a quand même des règles. Et là, très souvent, les élus sont déçus de ne pas pouvoir nous offrir, entre guillemets, ce bout de terrain. Pour faire ça que dans les règles, généralement, ça passe, enfin, je suppose, hein, ça passe dans les conseils municipaux. Pour nous affecter un terrain qu'on a vu avec les élus ou les adjoints et on a validé en disant oui, ça nous correspond bien, etc. De là, on signe une convention pour faire ça dans les règles. Alors bien sûr, pour cette convention est signée entre moi-même et généralement c'est le maire ou son premier adjoint. Le terrain, s'il est clôturé, c'est bien. Et puis tous les membres de l'association qui n'ont pas de terrain peuvent poser leur ruche. Alors bien sûr, on ne laisse pas non plus la porte ouverte à toutes les ruches possibles et imaginables, parce que quand on sait que les abeilles elle butine plus d'un million de fleurs pour faire que 1 kilo de miel, qu'une abeille se déplace 2 ou 3 kilomètres autour de sa ruche, on se dit, fonction de la biodiversité, fonction de l'environnement, ben là, on pourra mettre que 4-5 ruches, pas plus, parce qu'elles n'auront pas à manger, ou pas suffisamment à manger, parce que l'objectif final, quand même, pour un apiculteur, c'est de faire une récolte.
Ah oui, bien sûr.
Hein, une récolte, voilà.
Ça, c'est certain, ouais.
Donc voilà, et puis nous, les membres du bureau, eh bien, on a convenu avec chaque membre de l'association qui dépose une ruche, de signer une charte où il s'engage à nettoyer le terrain, ne jamais planter d'arbres sans l'accord, ne jamais utiliser de pesticides ou quoi que ce soit, respecter certaines règles qui sont simples mais qu'il faut respecter.
Alors les ateliers pédagogiques, ils sont destinés à quel public? Bon, vous avez dit tout à l'heure 13 ans, hein, c'est le plus jeune, hein, mais en général, c'est des personnes, disons, de plus de 18 ans.
Alors, attention, vous m'avez parlé des ateliers pédagogiques, le rucher école, oui, généralement, c'est des gens je vais les situer entre 25 et 70 ans, quoi, hein, où on peut s'initier à l'apiculture, hein, peut-être même plus, hein, demain on aura quelqu'un plus âgé, hein, qui nous rejoindra. Par contre, les ateliers pédagogiques, là où on va pour expliquer le monde de l'apiculture, le monde de l'abeille, j'appelle ça le monde merveilleux des abeilles, là, c'est plus quand même en majorité dans les écoles. Dans les écoles primaires et dans les maternelles, les grandes maternelles, parce que les enfants de 3 ans, c'est pas évident de les tenir attentifs pendant même une demi-heure, c'est parfois compliqué.
Donc en général, pour les CM1, CM2.
C'est ça, généralement. Mmh. Et puis là, avec une association locale, j'organise sur Salomine des ateliers pédagogiques où là, ce sont des adultes avec leurs enfants qui viennent, qui posent des questions sur le monde des abeilles, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et je vais même la semaine prochaine organiser un petit atelier qu'on appelle un atelier cire, où on va apprendre à utiliser les produits de la ruche, leur montrer comment on fait de la cire, comment on récolte la cire, ce qu'on peut en faire, toutes ces choses-là.
Et également en véro, un type véro pédagogique.
Voilà, c'est Véronique. C'est Véronique, une membre de notre association, je donnerai pas son nom à l'antenne, bien sûr. Et Véronique, lors d'un de nos salons, eh bien, elle s'est dévoilée sur un stand en présentant des bougies, des cires pour les meubles, des choses comme ça. Donc, j'appelle ça un atelier type Véro, et puis comme on fait à Salomine, quoi.
Alors, ça donne envie
Ça donne envie, qu'est-ce qui
ça donne envie d'adhérer à votre association, alors, cette affaire-là?
Ah, bah oui, ça donne envie, hein, mais bon, on essaie quand même de respecter une certaine règle dans notre association, parce que quand on dit que nous sommes 60 membres dans l'association, ce qui est réel, bien sûr, ce sont 60 membres apiculteurs ou élèves apiculteurs. Donc les gens,
c'est des membres actifs là.
Voilà, c'est des gens passionnés par l'apiculture, qui sont apiculteurs ou qui veulent devenir apiculteurs. Parce que faire venir ma tante, mon oncle et un copain, s'il n'est pas intéressé par l'apiculture, il va s'ennuyer dans notre association, quoi. Voilà. Et nous ne sommes plus dans une situation où on recherche des membres pour gonfler les chiffres. On n'en a pas besoin.
Alors comment faire pour adhérer à votre association là?
Généralement, ça commence. Les apiculteurs me contactent en disant « Mais j'aimerais bien rejoindre ton association parce que vous organisez des ateliers. » On organise également des ateliers, je dirais, on appelle ça réunion apicole. C'est-à-dire une fois par mois, le dimanche matin, on se réunit, les débutants avec les anciens, pour expliquer des petites astuces. Alors chaque dimanche, il y a un thème, c'est par exemple comment faire des rennes, et on explique aux débutants, dire tiens, voilà, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et c'est une façon directe de partager l'expérience qu'on a de terrain.
Donc tout le monde peut s'inscrire dans votre association? Ou bien il faut avoir un certain âge?
Ah non, 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 tout le monde peut s'inscrire. Là, comme je vous le disais, un jeune de 13 ans, avec l'accord, bien sûr, de ses parents.
Ah oui, il faut une autorisation parentale. Tout à fait. En dessous de 18 ans, quand même.
Voilà, voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ce qui est logique.
C'est logique,
normal. Sûr, Non, non, mais tout jeune, passionné, j'ai quand même. On voit quand même que c'est une moyenne d'âge, je vais dire, allez, qui flirte avec les 30 ans. Ce qui veut dire que la jeunesse, les jeunes sont intéressés, sont curieux de ça. Et même, je me dis, si c'est une passion éphémère qui se lance dans l'apiculture pendant 2-3 ans, parce qu'après, la vie fait qu'ils vont changer d'orientation professionnelle, de région, mais au moins, ils auront un respect énorme pour la nature, un respect énorme pour l'environnement. Ils auront appris plein de choses.
Alors, visiter Arucher, c'est possible ?
Ah, mais bien sûr ! Bien sûr, bien sûr. On organise de temps en temps des visites du Rucher École, oui, oui, du Rucher École de Libercourt. On a même eu l'honneur d'avoir le président du département, du Pas-de-Calais, qui est venu visiter notre rucher, accompagné du premier vice-président, hein, le maire de Libercourt. Ils sont venus visiter notre rucher. Donc notre rucher école. Mais c'est merveilleux.
Bah oui, quand même, le président du département, pour nous citer, M. Jean-Claude Leroy.
Tout à fait, vous le pouvez, voilà, tout à fait. Donc c'est quand même, je dirais, ce qui me rassure beaucoup, c'est de voir que, enfin de voir et de constater que, eh bien, tous nos élus sont à côté de nous les apiculteurs, des jardiniers, des tout ce qui touche à l'environnement, ils sont très très sensibles à tout cela. Et quand une action est menée dans l'intérêt de la nature et de l'environnement, eh bien, ils répondent présents. Et également de voir aussi beaucoup, beaucoup de personnes, pas forcément intéressées pour devenir apiculteurs, mais intéressées de connaître ce monde-là. Apprendre à reconnaître une abeille d'une guêpe, parce que les gens mélangent, on confond, c'est quoi les abeilles, c'est quoi les guêpes, je suis embêté, les faux bourdons, les bourdons. Les frelons. On parle de frelons asiatiques, mais c'est une catastrophe. Faut acheter des masques à gaz. Mais c'est une folie, tout ça. Oui, il y a du frelon asiatique, mais dramatisons pas les choses. Au contraire.
Alors, tout ça, ça a pris quand même pour la formation, pour avoir une ruche, pour adhérer aux ateliers pédagogiques. Combien ça coûte, tout ça ?
Oui, oui, c'est quand même un budget. Il faut reconnaître que c'est une passion qui coûte un peu au début, mais après, quand on vend son miel, ben, on peut se dire que c'est une passion qui ne coûte pas grand-chose. Alors oui, une ruche, à aujourd'hui, ça va de 110 à 120 euros, 130 euros, une ruche complète. À ça, il faut ajouter un essaim. Alors, où on trouve quelqu'un qui vous donne un essaim, ou vous en achetez, ça se vend entre 150 et 180 euros, un essaim. Après, il faut une tenue. Il faut une tenue d'apiculteur. C'est quelque chose comme 50-60 euros pour être équipé et dans les règles, et sans danger pour la personne. Après, le matériel d'extraction du miel, et c'est là où il y a l'avantage de l'association, parce que nous avons le matériel à disposition de l'association, et les membres peuvent utiliser ce matériel pour ne pas acheter un extracteur, des maturateurs, c'est beaucoup d'euros, hein, côte à côte. Hein.
Et puis après, il y a quand même l'enfumoir également.
Eh oui,
il y a le ça fait partie de l'apiculture,
voilà,
quand même.
C'est l'outil, le premier ou le deuxième outil à disposition.
Après la tenue d'apiculteur.
Voilà, et le lève-cadre.
C'est vrai que les abeilles, c'est pas. Si on les embête pas, ils n'embêtent pas les personnes, hein, c'est certain. Voilà, il faut pas les taquiner, voilà, il faut laisser tranquille, mais il faut avoir la tenue quand même, parce que aller dans. Tout près de la ruche, il y en a, hein, qui. Il y en a des abeilles, hein.
Oui,
voilà.
On a 70, 80 000 bébêtes.
Voilà. Alors il faut quand même. Il faut la tenue, puis le masque, hein, éventuellement, adéquat, hein, voilà.
Tout à fait. Et là aussi, épaulé par les fabricants de matériel. Quand j'ai créé l'association, j'ai contacté les principaux, je ne donnerai pas les noms sur l'antenne, mais j'ai contacté les principaux fournisseurs et je leur ai expliqué, voilà, une association, aidez-nous, comment vous pouvez nous aider. Et il y en a un avec qui on a un contrat moral, qui lui a joué le jeu, a dit, monsieur Cagnat, ben, moi je vous fais les prix revendeurs. Donc c'est quelque chose comme 25-30% moins cher.
Hein, ouais, c'est presque prix coûtant, quoi.
C'est ouais. presque pour eux le prix coûtant. Ils ont très peu de marge, hein, mais parce qu'après l'apiculteur ira s'approvisionner chez eux, quoi. Hein, voilà, ça c'est une chose aussi qu'on a cherché à faire bénéficier les membres de l'association. Et alors, être membre de notre association, c'est 20 euros par an. Mmh. Et on est membre. Et si on n'a pas de place pour mettre une ruche, eh ben, on mettra ça dans un rucher communautaire. Et quand il y a du matériel qu'on en a besoin, eh ben, on peut le prendre. Et quand on organise des informations les dimanches, ils sont bienvenus, le café leur est même offert.
Voilà. Alors, vous avez organisé, c'est la première fois, étant donné que vous avez une année d'existence, je pense que c'était au mois de mai, à Salon. Hein? Oui. Alors, expliquez-nous ça.
Oui, alors, c'était au juin, début juin.
Début juin.
C'est début juin. Si vous voulez, au niveau d'un syndicat apicole national, il a été créé la quinzaine des pollinisateurs. Du 1er au 15 juin de chaque année. L'objectif est de sensibiliser un maximum toute la population et toutes les générations, au niveau national bien sûr, sur l'importance des pollinisateurs. De dire, il n'y a plus de pollinisateurs, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de pommes, il n'y a plus d'herbes, il n'y a plus de trèfles, il n'y a plus de pissenlits, il n'y a plus rien et on va mourir de faim. C'est Einstein qui avait écrit 5 ans et après on meurt de faim. Je ne sais pas si c'est 5 ans, mais c'est la voie qu'on prend. Hein. Bref, et dans le cadre de cette quinzaine des pollinisateurs, étant en contact avec le département, qui est moteur pour organiser ça dans la région du Pas-de-Calais, hein, le département 62, pardon, eh bien, j'ai été sollicité. Et sur l'Hybercourt, eh bien, on a dit banco, on va suivre, on va organiser un petit salon. L'idée au début, c'était fixer 800-900 visiteurs sur 3 jours. Alors 3 jours, eh ben, on l'a décomposé en 2. Jeudi, vendredi, les enfants. Samedi, les parents et les adultes. Et les enfants également. Et là encore, hein, épaulé par le premier adjoint de la ville de Libercourt, on a fait venir tous les enfants des écoles de Libercourt et de quelques communes avoisinantes. Ce qui a fait 500 enfants qui se sont déplacés jeudi, vendredi sur Libercourt pour découvrir un peu ce monde merveilleux de l'abeille, les tenues, voir des ruches, voir même une ruche avec des abeilles vivantes à l'intérieur, bien sûr enfermées et protégées. Et puis ces enfants en ont parlé chez eux, certainement. Et du samedi, chance pour nous, bien sûr, la météo était là, mais on compte à peu près 1000 à 1100 personnes qui sont venues du samedi sur Libercourt.
Donc les parents ont fédéré par rapport aux enfants.
Tout à fait, tout à fait. Alors bien sûr, on avait organisé ça avec des petits gadgets qu'on donnait, des petits crayons, abeilles déterries, on offrait ça, c'était l'entrée gratuite. Et l'idée était de dire, mais venez découvrir ce monde. Et ce qui est bien, c'est qu'au-delà de ça, énormément de personnes nous ont contactés pour en savoir un peu plus. Et notamment, bien sûr, les écoles, pour dire, la première étape, c'est de visiter ce salon. Vous pourriez organiser un petit atelier dans ma classe pour expliquer aux enfants. Voyez. Et vous voyez, ça fait boule de neige, même si c'était au mois de juin.
Alors justement, la question qui va avec ça, comment se développe votre association et quel avenir vous envisagez pour celle-ci? Parce qu'avec tous ces enfants qui ont venu, les parents, ça fait des membres qui, à l'avenir, qui vont adhérer à votre association.
Ah peut-être ou peut-être pas, je dirais. Alors, pour l'avenir, on en parlera, mais l'objectif, c'est pas pour nous, hein, ce n'est pas d'avoir 2000 membres de notre association, pas du tout. Il faudra même, je ne vais pas dire essaimer, mais butiner. Butiner pour créer une nouvelle ruche, essaimer. Mais c'est surtout très important, je pense, et croyez-moi, j'ai une satisfaction énorme quand le public face à moi comprend comment fonctionne la nature, comprendre la pollinisation, toutes ces choses-là, l'importance des pollinisateurs, attention aux pesticides, ne polluons pas la planète, plantons des fleurs, vous voyez, ça c'est important. Et là, on a notre satisfaction. Alors l'avenir de notre association, eh bien, là aujourd'hui, donc sur Libercourt, nous avons une salle qui nous est mise à disposition par la mairie, avec une convention, pour les cours théoriques sur l'apiculture. Nous avons notre rucher école pour initier et apprendre dans les ruches à manipuler les cadres, les choses comme ça pour les élèves. Nous avons un petit local pour faire notre stockage de petits matériels qui nous est donné, qui nous est offert par des petits sponsors. Et l'objectif à moyen terme pour nous, ce serait d'avoir ce qu'on appelle une miellerie. Mmh. La miellerie, c'est un endroit réservé où l'apiculteur peut extraire son miel avec tout l'équipement nécessaire et dans des conditions d'hygiène correctes. Mmh. Parce que bah, ça existe, ça, l'apiculteur qui n'a pas les moyens dans son garage, sur des cartons, avec un extracteur manuel, essaie de se débrouiller. Et là, par contre, l'association, c'est de dire, mais venez chez nous, on va essayer d'avoir du matériel. Bien sûr, on a besoin de sponsors là, pour avoir tout ça.
Ouais. C'est un coût quand même. Donc, à peu près 4-5 000 euros, c'est ça, à peu près?
Oui, 4-5 000 euros de matériel, comme pour rire, oui, tout à fait. Et puis, bien sûr, trouver un local pour pouvoir entreposer tout ce matériel. Hein.
Donc, ça servirait à tout le monde.
Ça servirait à tous les membres de l'association. Ouais. Oui, ouais. Après, quelqu'un qui n'est pas membre, on pourra aussi le dépanner. Hein. L'apiculteur a quand même un esprit de communication et de partage avant tout. Hein.
Donc, votre association est reconnue d'intérêt général et toutes les associations ne sont pas reconnues d'intérêt général.
Et pourquoi
vous y êtes?
Alors, pourquoi j'y suis? Tout simplement, bon, on m'en a parlé, on m'a sollicité en me disant « mais tu devrais te renseigner ». Donc je me suis renseigné à la Direction Générale des Finances Publiques en expliquant notre association, ce que nous faisons, donc les ateliers, enfin le rucher école, les ateliers pédagogiques, les ruchers communautaires, le souci de transmission, des choses comme ça. C'est un dossier que j'ai constitué, que j'ai transmis. À ça, eh bien, j'ai eu trois pages recto verso de questions du genre le miel du rucher école, vous allez le vendre? La réponse, non, on va l'offrir à nos sponsors. Et puis, après analyse, c'est un dossier, ça a duré quand même presque 10 ou 12 mois. Et contrairement à ce qu'on dit sur les impôts, ils ont été très sympathiques, ils ont bien répondu à mes questions, ils m'ont aidé à constituer mon dossier. Et puis les conclusions de leur analyse, alors là je vais me permettre de lire, hein, c'est en conséquence, l'association Abeilles des Terries peut bénéficier du régime des dons et du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du CGI. Ce qui veut dire que nous pouvons donc percevoir des dons et émettre une attestation qui leur permet à eux de déduire de leurs impôts.
Comme toute association, enfin comme tout don, 60%.
Voilà, d'accord. Tout à fait.
Donc si vous donnez 100 euros, il y a 60 euros qui sont...
Voilà. Et donc on compte beaucoup sur ça pour que des entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir des ruches et qui sont sensibles aussi à ce côté, ce qu'on cherche à développer dans notre association, hein, la biodiversité, la nature, les abeilles, je me permets là de leur faire un appel. Aidez-nous. Et puis, la planète se portera mieux.
Voilà. Alors, on va parler un peu des abeilles. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, les apiculteurs ont eu mal à partir. Enfin, c'est-à-dire, ils ont fait des pétitions par rapport au gouvernement parce qu'il y avait disparition d'abeilles. Et il y a déjà au moins 3-4 ans cette affaire-là. Hein. C'est vrai, les pesticides, les insecticides, enfin tout ce qui s'ensuit là, et fait que les abeilles décèdent. Bon, voilà. Quoi. Alors justement, votre avis sur la question.
Alors, bien sûr, je précise tout de suite, ce n'est que mon avis, hein, parce que je suis déjà pas un scientifique, donc je ne répondrai pas à des questions. Il y a des professionnels qui sont là pour répondre, mais j'ai quand même, moi, après des lectures, après avoir écouté, entendu et discuté même avec des personnes calées dans le domaine, c'est vrai que les pesticides sont néfastes pour les abeilles. Pourquoi? Parce que les abeilles, elles ont un système immunitaire qui n'est pas protégé, un peu comme l'homme, mais vu leur volume, vu une petite goutte ou une gouttelette de pesticides qu'elles ingèrent, c'est toxique, comme si nous on buvait un litre de ce produit. Alors on ne va pas dire que les agriculteurs jettent des pesticides sur les ruches, c'est pas vrai. Tout du moins j'en connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ça. Par contre, le fait d'avoir soulevé ce mouvement-là, il y a des choses qui ont été mises en place et qui sont quand même un peu bénéfiques. Bien sûr, dire aux agriculteurs, demain, vous n'avez plus de pesticides, ben eux, ils vont dire, mais moi, je ne pourrai plus produire. Parce qu'ils ont leur souci aussi de rentabilité. Hein. Par contre, il y a des règles qui ont été instaurées et qui sont appliquées. C'est étendre les produits le matin avant 9h. Pourquoi avant 9h ? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là où l'abeille sort et va butiner sur les fleurs. Et quand la fleur par elle-même est recouverte de ce pesticide, eh ben elle vient et elle lèche ce pesticide. Le fait de le faire le matin de bonne heure, eh bien les produits sont absorbés par la plante, et de ce fait-là, l'abeille est moins en contact avec ce produit et va directement chercher le nectar. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus rien, mais ça limite énormément les problèmes. Il y a ça. Après, il y a d'autres choses aussi qu'on n'ose pas trop parler, mais qui pourtant sont réelles. Quand on regarde notre environnement, c'est vrai, nous avons des autoroutes, c'est vrai, nous avons des grandes surfaces avec des grands espaces, des grands parkings. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va avec sa voiture et on veut aller, je ne donnerai pas la marque, mais on va chercher son sandwich sans sortir de sa voiture. Tout ça fait que ben, y a moins d'espace vert, moins d'espace naturel. Eh bien, moins d'espace, moins d'arbres, moins de plantes mellifères, donc moins de nourriture pour les abeilles. Donc les abeilles qui ne passent pas l'hiver parce qu'elles n'ont pas assez de provisions. Vous voyez, donc il y a toutes ces choses-là. Mais ça évolue. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué cette année. Moi, j'ai été agréablement surpris dans certains endroits de revoir des coquelicots. Mmh. C'est extraordinaire. Il y a quelque temps, on ne voyait plus de coquelicots.
C'est-à-dire, on a revu par rapport à la Grande Guerre, pour les commémorations. Mais il y en a d'autres qui sont instaurés depuis.
Voilà, parce que les graines de coquelicots, qui sont très sensibles à tous les produits toxiques, je vais dire, pour elles, eh bien, on ne voyait plus. Et là, ça veut dire quand même qu'il y a quand même un peu moins de produits toxiques répandus. Quand on voit sur les grandes routes ce qu'ils appellent le fauchage intelligent. On fauche que sur 1 mètre, 1 mètre 50 et non pas tout fauché. Je suis en contact avec une entreprise où ils ont instauré chez eux le fauchage une fois tous les 2 ou 3 mois et non plus tous les mois pour avoir une belle pelouse. Comme ça, il y a un peu de plantes mellifères qui poussent. Vous voyez, toutes ces choses-là font que ça évolue et ça change. Alors après... comme on le disait, la santé de l'abeille, c'est vrai qu'il y a des maladies sur les abeilles, mais il y a également un acarien qui s'appelle le varroa. Alors certains apiculteurs disent, moi j'en ai pas dans mes ruches, c'est faux, il y en a dans toutes les ruches. Et là, ben, faut faire attention, faut traiter, parce que cet acarien-là suce les corps gras et les hémolymphes de l'abeille. Et donc, elles s'affaiblissent et elles se fragilisent. Après, il y a des apiculteurs qui font des erreurs. J'ai vu en début de saison dernière un apiculteur qui m'appelle en me disant « Ouais, les pesticides, regarde, mes ruches, elles sont mortes. » J'y suis allé. Ma conclusion, c'est que non. Il a dû certainement tuer ou écraser sa reine en septembre.
Voilà.
Et la ruche est morte parce qu'il n'y avait plus de reine. Donc ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas les pesticides dans son secteur. Vous voyez donc.
Ouais, il y a du pour et du contre.
Voilà, faut être très prudent. Mais voilà. Les choses évoluent.
Le miel, c'est la récolte des abeilles. Hein, et on parle de miel frelaté. Alors votre point de vue à ce sujet.
Alors bon, mon point de vue, c'est vrai que on voit des ventes de miel. C'est sur l'étiquette, il est noté mélange de miel venant de la CE. Oui, voilà, c'est bien. Après, ce qui se fait aussi, c'est certains apiculteurs, heureusement ils sont rares, mais c'est de mélanger dans le miel de l'eau et du sucre. Voilà, et au lieu de 200 kilos, ben, on a 250 ou 300 kilos. Mais le public étant sensibilisé à la qualité des miels, ça se produit quand même de moins en moins, heureusement.
Ouais. Bien sûr, donc le miel frelaté, c'est un ajout de. C'est pas du miel pur, voilà.
Voilà,
on a coupé.
Voilà. C'est comme alors, Beaujolais, c'est les mélanges.
Ouais. Alors, mis à part le miel, il y a d'autres produits de la ruche.
Bien sûr, notamment
la cire d'abeille.
Oui, il y a la cire d'abeille. Il y a la cire d'abeille qui est utilisée dans. Que nos grands-parents aient utilisé pour cirer de miel. Maintenant, on en fait des cosmétiques en mélangeant de la cire d'abeille avec de l'huile d'olive. On présente tout ça dans nos ateliers. Mais il y a également le pollen. Le pollen qui est très nutritif, qui est bourré de vitamines, qui se récolte aussi. Il y a la propolis aussi. Et après, ça, c'est compliqué à récolter, mais c'est très bon. C'est la gelée royale. Certains... vendent et fournissent de la gelée royale.
Ouais, c'est très bon pour la santé.
Ah ben, l'exemple que j'explique toujours, sans répondre à votre question, je dis toujours, une abeille qui est nourrie au miel et au pollen vit 45 jours. Une reine qui est nourrie à la gelée royale, elle peut vivre 5-7 ans. Je pense qu'avoir répondu à la question.
Mais d'accord.
L'importance de la gelée royale.
Voilà, exactement. Alors, j'ai lu quelque part que vous êtes également TSA pour le GSA. Est-ce possible de nous éclairer par rapport à ces termes que je ne connais pas ?
Oui. Alors, le GSA, c'est le groupement sanitaire apicole, donc, qui existe au niveau national. Et dans le Pas-de-Calais, donc, je suis... administrateur du GSA 62, dont le président est Surinin Beaumont, et s'il m'entend, je le salue, c'est Xavier. Donc, personnellement, j'ai été formé pour être TSA, c'est-à-dire technicien sanitaire apicole, et pour pouvoir être un soutien sur la santé des abeilles, pour être un soutien à tous les membres du groupement sanitaire apicole du Pas-de-Calais.
D'accord. Alors, pour terminer sur l'heure, à peu près une heure qu'on a consacrée à votre association, l'Abeille des Thierry, alors je veux adhérer à l'association. Comment fait-on ? Et je veux donner un don à l'association. Comment fait-on ?
Alors, déjà, on prend contact avec moi.
Voilà.
Voilà, on prend contact avec l'association. Alors, sur Internet, c'est contact@abeilledesthierry.com. Sinon, on me contacte personnellement sur mon portable. On me retrouve 06 19 60 56 85. On me contacte pour voir comment adhérer à notre association pour que je puisse envoyer un bulletin. Et si on veut faire un don, même chose, on me contacte et je me déplace pour expliquer ce qu'on va faire avec ce don pour pouvoir émettre le certificat, enfin l'attestation qui leur permettra de déduire.
D'accord. Alors, vous avez dit que pour adhérer à l'association, c'est une cotisation de 20 euros par an, c'est ça, hein ?
C'est ça, 20 c'est ça. Euros par an, tout à fait.
20 euros. Alors, 20 euros, c'est pour l'année,
c'est
et
pour
on bénéficie de tout ce qui...
Tous voilà. Les avantages, je dirais, de communication, d'échange et de partage que l'association offre au niveau matériel, au niveau prix, des équipements, des choses comme ça, oui, tout à fait.
Donc, on vous souhaite une bonne vie à votre association qui a une bonne année d'existence. 12 septembre, aujourd'hui, on est le 7 octobre.
Voilà.
C'est une bonne année et puis que perdure l'abeille des Thierry.
Merci à vous.
Merci, monsieur Cagnard.
Merci.
Bonne soirée à vous. Au revoir. Oui, je pense qu'on a été dans les temps.
Oui, on est dans les temps et on reviendra là cette fois-ci pour la deuxième heure pour l'émission Sport Plus.
Tout à fait. Merci.
À tout à l'heure sur Radio Plus.
Artisans, commerçants, si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients l'écoutent également.